en Corinthiens 12, verset 13, car nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps, juif ou grec, esclave ou libre, et il nous a été donné à tous de boire un seul esprit. Le second est l'église locale où nous trouvons actuellement à ce moment, définie par un lieu spécifique. La Bible parle de la nécessité pour chaque membre de l'église universelle de faire partie d'une église locale. C'est biblique. C'est essentiel car nous ne sommes jamais appelés d'être des disciples de Christ dans une manière isolée. Nous sommes toujours ensemble. L'église locale est le lieu où les croyants peuvent appliquer les activités du corps du Christ. Vous pouvez le voir plus loin dans le Corinthiens 12. S'encourager, s'enseigner et s'édifier mutuellement dans la connaissance et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Une métaphore qui est également utilisée, et nous avons écouté ça ce matin, c'est le corps du Christ. Et c'est trouvé dans Éphésiens 1, 22-23. Dieu a mis toutes choses sous le pied de Christ et il a donné l'Église comme chef suprême. L'Église est le corps de Christ. C'est en elle que le Christ est pleinement présent, lui qui remplit tout l'univers. C'est génial ça. L'Église est le corps de Christ et il est en et la tête. Chacun d'entre nous compose ce corps. Et chacun d'entre nous a un rôle indispensable à jouer dans l'Église. On attend d'utiliser par Jésus pour construire son Église. Nous avons tous une fonction et un rôle à jouer. Dans ma préparation pour ce matin, j'ai lu une étude récente sur les activités dans les églises aujourd'hui, dans le monde, pas ici à Marguerite, mais dans le monde. J'ai été un peu attriste de lire que la plupart des églises d'aujourd'hui engagent quelqu'un comme un pasteur qui se consacrerait ensuite aux activités de l'église. Mais je suis content d'avoir les pasteurs dans l'église. Mais la croyance générale de l'Église est parce qu'ils payent le dîme, qui paye le salaire de le pasteur, le travail dans l'Église est complet, est terminé. Ça, c'est le problème. Le fameux principe 80-20% selon lequel de la majority de travail, le 80% de le travail de l'Église est effectué par 20% des personnes. Et je crois que ça, c'est le dommage. L'étude a comparé l'Église à un match de foot où de plus en plus des personnes deviennent des spectateurs. Si c'est la vraie, le corps de Christ, l'Église n'est pas dans une bonne place. Les activités ministérielles de l'Église aujourd'hui devraient être gérées par l'ensemble de l'Église. C'est notre responsabilité. Si nous nous dirigeons vers un sport de spectateurs, alors nous découvrions que c'est la raison pour laquelle beaucoup de le 20% des personnes dans l'Église ont désespérément besoin de ils souffrent de burn-out ou même quittent l'Église. Il arrive souvent maintenant. Et tandis que La reste, les 80% des personnes, ont désespérément un besoin d'exercice. Je crois aussi qu'une cause pas chère de ce soi-disant syndrome est l'incapacité de l'Église aujourd'hui d'identifier les dons de ses membres et les faire ressortir et à amener ses croyants à la maturité. Je crois dans Acte 2, il donne un aperçu de la nature simple de l'Église. Acte 2, 42 jusqu'à 47. Non. Pardon, oui. Beaucoup de textes. Tout s'applique fidèlement à écouter l'enseignement qui donne les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. Je crois que nous avons parlé de tout ça ce matin, c'est bien. Chacun ressentait de la crainte, car Dieu accomplisse beaucoup de prodiges et de miracles par l'intermédiaire des apôtres. Tous les croyants étaient unis et partageant entre tout ce qu'ils possèdent. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous et tenant compte des besoins de chacun. Chaque jour, régulièrement, ils se réunissent dans le temple, ils prenaient le repas ensemble dans la maison et mangeant la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et ils étaient estimés par tout le monde. Et le Seigneur ajoute chaque jour, il ajoute chaque jour à leur groupe ce qu'il amène au salut. Je crois cela donne une image mauvaise de ce à quoi l'Église devrait ressembler. C'est mauvais. La première partie de la première verse parle de l'enseignement. Les apôtres étaient responsables de l'enseignement du peuple. Et ce n'était pas n'importe quel enseignement, c'était l'enseignement de la vérité, de ce que le Christ leur avait enseigné et qu'ils devaient maintenant partager avec l'Église. Ils enseignent également la réalité de la mort de Christ et le fait qu'il était ressuscité des morts et il était assis à la droite du Père. Si tu veux te voir plus, le début de le chapitre, c'est le discours de Pierre. C'est le message qu'il a donné. Et il est puissant, il est rempli de le Saint-Esprit. Il dit la vérité, elle a changé la vie de milliers de personnes autour d'eux à ce moment. Il est allé au cœur du message. Et cette première évangélisation a poussé les gens à changer leur vie. Il nous donne aussi une vision simple de la puissance de la parole, de la vérité. J'aime la première partie du verset. Tout s'applique fidèlement. J'ai une question pour chacun d'entre nous ici aujourd'hui. Vous devriez vous à écouter l'enseignement des anciens ou des personnes les responsables, les personnes qu'ils amènent dans cette communauté pour enseigner. Recevons-nous les paroles qui nous sont enseignées en ce temps d'enseignement et changez-nous profondément nos vies comme cela devrait être le cas. Lorsque nous nous consacrons à l'écouter de la parole, cela signifie que nous faisons beaucoup plus que simplement écouter. Nous nous examinons dans le process et essayons de trouver où ce qui est enseigné s'applique dans nos vies. Et prenons la décision de changer nos vies en conséquence. C'est une démarche proactive et déterminée. Ça, c'est le but de la prédication de dimanche, de changer nos vies. Et pour les personnes qui viennent de prêcher, d'enseigner l'Église, c'est bon pour nous aussi d'écouter Dieu et de parler de choses de Dieu. Le Saint-Esprit parle à travers le prédicateur pour équiper le peuple de Dieu afin de transformer sa vie. La prédication et l'enseignement dans l'Église ont les 5 résultats clés suivants pour nos vies. Le premier, c'est pour augmenter notre foi. Romains 10, verset 17, Paul a enseigné que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend entendre vient de la parole de Dieu. C'est là qui inspire notre foi lorsque nous essayons sous la parole chaque dimanche. Il augmente notre foi. Il permet la croissance spirituelle. La parole permet à notre esprit de grandir. Elle nous encourage et nous fait grandir. Nous équipons pour les œuvres de Dieu. Renouvelle des esprits, nos esprits. L'enseignement doit s'enraciner profondément dans nos esprits et nos cœurs. Et plus nous écoutons, plus notre façon de penser est fortifiée et changée pour façonner les voies de Dieu, du Dieu. Du Christ pour nous corrige et nous protège. Bien, c'est plus facile pour nous d'être encouragés par la parole, par les choses que nous entendons. Mais parfois, il y a des moments où Dieu nous parle directement pour nous corriger et nous protéger du mal que nous nous faisons à nous-mêmes et à ses brebis. Le cinquième point, il fournit des conseils et une inspiration prophétique. Dieu transmet les connaissances spécifiques à l'Église pour l'aider et à préparer pour l'avenir. Ça, c'est les 5 clés pour l'enseignement. La partie suivante du verset 42 parle de la communion. Ce que nous essayons de faire ici, maintenant, mais dans cette situation, c'est vraiment difficile. Nous sommes 7-8 ici. Ce n'est pas facile. Mais la communion fraternelle est le rassemblement de les personnes qui partagent la même croyance et partagent la vie ensemble. Faisons la vie ensemble. Pour être vraiment fraternel, nous devons développer une culture de la vraie famille. Lorsque nous nous réunissons, nous devons être capables de partager nos vies, les uns et les autres, nos succès, les choses que nous avons apprises, nos intérêts, nos objectifs, nos devoirs et nos épreuves et problèmes dans la vie. C'est essentiel pour la croissance de nos vies chrétiennes. Je sais qu'en ce moment, c'est difficile d'être confiné, etc. Mais nous devons honorer la loi qui est en place et nous avons prendre cette décision et David a confirmé ce matin. Mais c'est un moment d'être plus créatif pour être en communion et nous soutenir mutuellement dans les différentes choses que nous faisons. C'est possible. C'est nécessaire d'être un peu créatif. C'est ainsi que se construit une véritable communauté. Et si je reprends l'analogie du corps, ce n'est pas juste que tu es la main et tu restes avec les doigts et le bras. Peut-être qu'il y a autre personne qui est le pied. Mais vous êtes toujours connecté et vous pouvez toujours faire des choses pour et avec les autres. Ce n'est pas juste que tu es les deux côtés de le corps. Nous sommes tous une famille, un seul corps. Nous répondrons aux besoins des gens. Nous nous aidons et nous nous soutenons mutuellement dans les épreuves qui se présentent. Nous célébrons ensemble les succès des uns et des autres. Nous créons une communauté qui est là les uns pour les autres. Le fait d'être ensemble avec des personnes partage les mêmes idées avec les co-religionnaires nous permettent d'être construire continuellement notre foi. Les gens avec la même pensée, le même cœur. Et le plus nous sommes ensemble, le plus nous sommes réunis. Le partie suivant du verset parle de partager un repas ensemble. Certaines versions version bibliques parlent de le Saint-Saint, mais les autres font référence de manger ensemble. Quel que soit le sens réel, les deux ont un rôle important à jouer pour approcher les gens. Malheureusement, prendre des repas ensemble à ce moment, c'est encore difficile. Je me souviens de l'époque où j'étais célibataire, c'est longtemps maintenant, mais pour préparer des repas, c'est pas une grande joie, c'est juste la nourriture. Vous le mangez et c'était tout, c'est fini. Cependant, lorsque vous comparez ce type d'expérience à ce que vous vivez lorsque vous recevez les gens pour un repas. Il y a une énorme différence. L'ambiance est différente, c'est plus festif, plus excitant. Et lorsque les personnes qui viennent sont des personnes très spéciales, comme la famille ou des amis très proches, ou l'église, le repas est encore meilleur, plus festif et un grand moment de convivialité. Si nous sommes vraiment une famille, alors lorsque nous nous réunissons, soit pour le Saint-Saint, nous allons le faire ce matin, après, ou pour prendre un repas ensemble, chaque fois que nous nous réunissons devrait être une célébration au cours de laquelle nous apprécions le temps passé ensemble. Nous travaillons à cette communion ensemble. La dernière partie de la première verse parle de la prière. Et nous avons fait ça aussi ce matin. Ils étaient également dévoués à la prière. En faisant toutes ces choses ensemble, ils veillaient à ce que la prière fasse partie intégrante de la culture, de l'écoute, pardon, et des moments passés ensemble. Nous avons tous besoin de la prière. Nous avons tous besoin de prier, car c'est une partie essentielle de notre communication avec Dieu. Mais lorsque nous prions ensemble, quelque chose de glorieux se produit. Et nous avons vu ça ce matin. Lorsque l'Église prie ensemble, il y a une multiplication de notre puissance dans la prière. Matthieu 18, versets 19 jusqu'à 20, quand Jésus enseigne sur l'Église, il avait ceci à dire. Je vous déclare aussi que si deux d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander que quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux le donnera. Car là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous avons vu ça au début de chapitre 4, Acts chapitre 4. Pendant Acts 4, pardon, lorsque les dirigeants de l'Église ont été menacés, l'Église s'est réunie pour prier ensemble dans l'unité. Quand ils auront fini de prier, l'endroit où ils étaient réunis trembla. Ils furent tout remplis de Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Il est les choses qui passent quand nous prions ensemble. Ces quatre clés devraient être certaines des pilières dans l'Église d'aujourd'hui. Quand nous passons sur verset 43, il parle sur les dons spirituels, les signes, les miracles accomplis par les apôtres. Dans le déversement de l'esprit, les apôtres ont reçu des dons spirituels et ils ont commencé à l'utiliser. L'utilisation des dons spirituels dans l'Église est aussi un rappel que le Christ est avec nous et qu'il nous a donné son esprit pour nous soutenir les uns les autres et nous montre qu'il ne nous a pas abandonnés. Chacun d'entre nous a des dons de Dieu et ces dons spirituels ne sont pas pour nous seuls, pour le tenir et le garder dans nos mains, mais pour libérer et nous servir les uns et les autres. 1 Pierre 4, verset 10, que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs des multiples dons divins. Une chose qui m'a le plus attristé durant cette période de COVID, au cours de cette dernière année, a été le ralentissement de l'utilisation des dons de l'esprit. Je sais qu'il n'est pas aussi facile lorsqu'on est assis chez soi, sur son canapé avec ton café. Oui, c'est super, mais c'est difficile parce que nous ne sommes pas unis dans la même salle. Et l'utilisation des dons commence à diminuer. Ce n'est pas juste ici à Marguerite, c'est dans toute l'Église du monde. Il y a une séparation. Et c'est vraiment difficile d'utiliser les dons dans cette situation. Nous avions l'habitude d'avoir régulièrement des paroles prophétiques à chaque réunion ici. Mais pendant les dernières années, il a diminué beaucoup. Mon cœur aspire à toujours plus de lui et à l'exercice de ses dons dans nos vies. Je voudrais mettre au défi chacun d'entre vous et m'inclure dans ce défi également, de persévérer, de nous de passer et de continuer à compter sur Dieu, sur le Christ en ce moment et à continuer à exercer nos dons. C'est nécessaire. C'est nécessaire pour l'Église. Verset 44 parle d'être ensemble et d'avoir des choses en commun. Les différentes versions de la Bible expliquent cela un peu différemment, mais le sens général est un peu plus le même. Cela signifiait que tous les croyants étaient unis, qu'ils avaient une vision et un objectif commun dans la vie. Une partie de cet objectif consiste d'assurer que les besoins des uns et des autres étaient satisfaits. Que tous les besoins soient satisfaits. C'est un sujet difficile à accepter parce qu'il commence à toucher un sujet un peu émotionnel, l'argent et nos choses. En tant que la communauté, lorsque nous rassemblons, que nous entraidons et que nous partageons les uns avec les autres, nous voyons un fil conducteur d'amour entre nous. Il est facile de le parler. Et Jacques, mentionné dans Jacques 2, 15 jusqu'à 16, que nous devrions pratiquement reprendre aux besoins les uns des autres. Au cours des derniers mois, nous avons parlé de nombreux actes différents que l'Église devrait accomplir aujourd'hui, de l'amour à la fonction de berger, etc. Et ceci fait partie de tout cela. Nous devrions nous donner, nous aider et nous soutenir les uns des autres, volontairement et joyeusement, par amour les uns pour les autres. J'ai lu une histoire qu'un homme et son frère qui essaient de réparer leur voiture. Ils ont été qu'au début, lorsqu'ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas les bons outils de faire le travail. Alors, qu'ils se demandent comment ils allaient réparer la voiture. Un de leurs voisins est arrivé avec une énorme boîte d'outils et ils se sont assis ensemble pour réparer la voiture. Cet homme était un homme d'affaires et les deux frères lui ont demandé « Pourquoi avez-vous tant d'outils ? Tu fais quoi ?» Il a répondu « Pour se faire des amis. » Mais peut-être c'est pas biblique, mais cet homme comprenait le principe d'aider les autres dans les besoins. Il était prêt à investir dans un grand nombre des utiles afin de pouvoir aider les autres et se faire des amis. Verset 45 parle à renoncer à ses biens les uns pour les autres, les vendre, etc., afin de les donner aux personnes dans le besoin. Si la dernier verset était difficile à accepter pour beaucoup de gens, celui-ci est probablement le plus grand défi. Ne vous me prenez pas sur ce qui est dit. Il ne dit pas que nous devrions vendre tout, nos possessions, vivre ensemble dans une propriété commune, je souhaite, mais développer une culte et ne pas avoir des biens propres. Non. Il encourage plutôt la nécessité de pouvoir se soutenir mutuellement, de prendre soin les uns des autres et de subvenir aux besoins de chacun. C'est difficile, et oui, cela signifie que nous devons faire des sacrifices de nous-mêmes. La bonne nouvelle, oui, il y a des bonnes nouvelles. Cela peut être exceptionnellement facile à faire. Il n'est pas non plus nécessaire de faire un énorme sacrifice. Dans l'Église, nous faisons beaucoup de choses. C'est un sacrifice de temps, de l'argent, etc. Juste un exemple. J'ai vu dans les derniers quelques mois, avec les récentes naissances dans l'Église, j'ai vu comment les dames se sont rassemblées pour organiser des repas. Pour la première semaine où ces mères sont de retour à la maison, afin que ces familles n'ayant pas à s'inquiéter de la préparation des repas, de devoir faire les courses pour qu'elles puissent se concentrer sur le fait d'être ensemble, de s'adapter à ce changement de vie et de profiter de ce temps ensemble. Cela donne aux mères le temps de récupérer, de se reposer et de se ressourcer. C'est quelque chose de si petit et de si simple qui ne coûte pas grand-chose pour ceux qui donnent, mais qui donne une énorme bénédiction pour ceux qui pourraient recevoir. Et ils répondent d'un grand besoin de les familles. Il y aura aussi, il se peut y avoir des moments où vous avez l'impression de donner tout le don. Tu fais tout. Il y a aussi les moments où vous serez dans le besoin. Et vous recevrez aussi. Mais nous devons nous préparer à pas seulement donner, mais aussi à recevoir. Souvent, les gens qui donnent ne reçoivent pas. C'est dans les deux sens. Ça, c'est le community. Verset 46, ils se réunissaient tous les jours. Impressionnant. Tous les jours. Quel engagement et quel dévouement. Ils se réunissent au temple, dans les maisons des autres, et ils prennent les repas ensemble avec des cœurs joyeux et sincères. Cela parle de la nécessité de réunir en groupe de croyants commune comme une seule église locale. Écouter régulièrement la parole du Seigneur ensemble, prier ensemble et adorer, louer ensemble. Ils démontraient ce que le Christ avait enseigné et les gens voulaient aussi en faire partie. Les cœurs joyeux et sincères parlent de l'authenticité de l'action. Ils ne se réunissent pas ou ne mangent pas ensemble par obligation, mais parce qu'ils en avaient envie et que cela le faisait plaisir. Ils avaient envie de faire. Une petite question. Combien de fois nous levons-nous le dimanche matin en pensant, dois-je aller à l'église aujourd'hui? Combien de fois c'est une joie d'être ensemble? Nous devons nous impliquer non seulement dans la ressemblance d'église à des dimanches, mais aussi dans les groupes de vie. Ne le faites pas parce que vous devez le faire, mais parce que vous le voulez et que cela vous réjouit. Soyez un membre actif et participatif. Et enfin, le verset 47 parle de la louange de Dieu. En tant que l'Église, nous nous sommes réunissants pour louer et adorer notre Dieu et notre Père. Le culte collectif, comme on l'appelle, lorsque nous nous réunissons et adorons ensemble, a un effet unificateur qui nous aide et aide à nous construire. Pierre a également parlé de cela récemment. Prendre un moment pour écouter, c'est vraiment riche et il parle dans le même sens. La dernière partie du verset 47 est probablement le plus important, car elle parle de personnes qui le sont ajoutées chaque jour. Comme l'Église primitive a fonctionné de cette manière et qu'elle avait su comme Dieu l'a appelée, elle n'a pas besoin d'évangéliser. C'est pas un besoin de faire. Dieu a ajouté des gens à son nombre, car les gens pouvaient sentir le Seigneur et l'amour que ce type de vie génère. Attends, David. Cela permet à l'Église de passer de temps à faire des disciples de Jean. Maintenant, je ne dis pas que nous n'avons pas besoin d'évangéliser. Non, je dis non. Je ne suis pas un évangéliste. Au moins, je ne pense pas d'être, mais l'évangélisation faisait une partie de l'Église primitive. Elle était dans les villes et les villages environnants et prêchait la parole. Une fois qu'il y avait des convertis, les autres apôtres viennent pour prêcher et enseigner et créer l'Église. Ils commencent à établir les églises locales, après quoi ils nominaient les anciens et les leaders dans l'Église, les dirigeants, pour prendre charge des églises. Alors, pourquoi c'est un problème ici, maintenant? Si une église locale est efficace dans ce qu'elle a fait, en faisant des disciples des gens et en mettant en pratique ce qu'elle croit, elle devrait toucher les cœurs des gens autour de l'Église, directement les cœurs des gens autour. Il ne devra pas être nécessaire d'évangéliser dans cette locale. Le problème que nous avons maintenant, aujourd'hui, est que nos églises ne font pas ce qu'elles sont censées faire. Nous ne faisons pas. Nous vivons à une époque où 80% de travail dans l'église est fait par 20% des personnes, où nous agissons pas comme un seul corps dans l'unité, et par amour Et si 20% des gens font le travail des autres, la taille de l'Église continuera à diminuer. Nous sommes tous appelés à être un corps de croyants qui travaillent par amour les uns pour les autres, avec les autres, dans l'unité, pour les œuvres auxquelles le Christ nous a appelés. Le Christ construit l'Église, mais il nous utilise pour le faire. Nous sommes ses instruments, et en tant que les mêmes membres de cette Église, pour toutes les églises locales, nous devons prendre position et répondre à l'appel qu'il a placé sur nos cœurs. C'est maintenant. Chacun de ces points que j'ai discutés et souligne aujourd'hui méritait à lui seul un sermon entier. Et je suis désolé de ne pas avoir consacré assez de temps à chacun d'eux aujourd'hui. La prochaine fois que je prêcherai, j'aimerais partager davantage sur certains de ces aspects avec vous. Mais en conclusion, nous sommes une communauté de croyants qui agissent dans l'unité, ensemble, comme un seul corps, dans le respect des dons et des talents de chacun, qui se construit mutuellement, se soutiennent et s'aiment. Nous sommes devoirs au enseignement de la parole, au point de laisser nos vies être changées, de désirer être le plus en plus semblable à Christ chaque jour qui passe. Que la communion fraternelle, le partage de repas, le temps passé ensemble nous permettent de grandir dans notre foi, d'être renforcés en tant que communauté de croyants qui se manquent de rien. Nous entendons l'appel de Dieu sur nos vies. Nous ressentons l'Esprit dans nos vies. Nous prenons le don qu'il nous a donné et nous les utilisons pour le bien de la communauté. Nous pratiquons le culte de tout cœur avec une onction collective qui nous lie, nous édifie et renforce notre foi, que nous prions ensemble régulièrement dans l'unité. Si nous pouvons faire tout cela, pas seulement dans cette Église, mais dans l'Église universelle, nous verrons un changement radical dans ce monde dans lequel nous vivons. Voilà ce que devrait être notre prière. Amen.